À Rencontre spirituelle aujourd'hui, il sera question d'une religieuse dont la cause de béatification est introduite, bien qu'elle soit morte il y a à peine quelques années. Elle est morte en 1987 et c'est la fondatrice ou la cofondatrice des Sœurs Disciples du Divin Maître que beaucoup d'entre vous connaissez, les Sœurs Disciples du Divin Maître, ces religieuses qui ont un immense magasin d'art liturgique, ou du moins d'objets sacrés, ça part des petites images jusqu'aux immenses statues, les objets du culte, les ostensoirs, ils ont des custodes pour donner la communion, pour apporter la communion aux malades, des custodes superbes de toute beauté. Il y a tellement de belles choses dans ce magasin qu'il y a plusieurs étages, que ça vaut la peine d'aller voir les Sœurs Disciples du Divin Maître, d'autant plus que ce sont des femmes de prière. Ce sont des contemplatives qui sont en même temps apôtres. Et ça transparaît dans leur regard, leur sourire, leur bonté. L'esprit de prière est là. Elles sont remarquables, je les aime beaucoup. Et la fondatrice s'appelle Mère Marie Scolastique Rivata, de son nom de baptême, Ursula, une jeune Italienne qui est née à Guarene, dans le nord de l'Italie. Ça me semble être dans le Piémont. Elle est née le 12 juillet 1897, il y a donc un peu plus de 100 ans. Et c'est la première des enfants d'Antonio Rivata et de Lucia Alessandria. Elle a deux sœurs et aussi un petit frère qui meurt le 3 avril 1904 à 10 mois, et ça là va la marquer évidemment. D'ailleurs, sa mère meurt, elle, le 8 juillet 1903. En somme, au moment de la naissance de cet enfant, de ce petit garçon. Donc à 6 ans, la petite Ursula expérimente une souffrance profonde. Elle souffre profondément de ce départ de sa maman. Et elle suit stupéfaite, cette pauvre enfant, la dépouille immortelle de sa mère. Ça me rappelle le décès de ma belle-sœur, funérailles à Pontvio, à Saint-Christophe. De voir mon frère avec ses enfants de 17 à 5 ans, 6 enfants, les deux dernières des fillettes qui suivaient la dépouille comme ça. C'est tragique, et ça arrive tous les jours. Partout sur la terre, il y a de ces moments où la mort est tragique. Et Ursula regarde autour d'elle, puis elle cherche le regard de bonté de sa mère, et celle qui ne reviendra plus à la maison, elle le sait, elle est quand même orpheline à 6 ans, elle saisit, mais c'est pas facile. Elle est l'aînée, puis elle s'en rend compte, et avec un bon sens supérieur à son âge, là, elle comprend qu'elle doit réconforter d'abord son père, qui est encore jeune. Elle doit rester proche de ses deux petites sœurs, puis de son petit frère, qui n'a qu'un mois au moment de la mort. Son père en arrive à se remarier, et cette deuxième femme n'est pas, malheureusement, comme maman Lucia, hein. Mais elle donne à la famille Rivata, heureusement, l'avantage d'une présence nécessaire et active. La première rencontre avec Jésus hostie, car les Sœurs Disciples du Divin Maître sont des adoratrices de Jésus dans le Très Saint Sacrement, hein, en principe 24 heures par jour. Bien qu'elles tiennent des maisons et qu'elles soient actives et qu'elles soient des apôtres en même temps. Alors, sa première rencontre, c'est une grande circonstance pour Ursula. Ça lui donne un nouvel élan. Et adolescente, elle communie souvent, puis même chaque jour. Et jeune fille, la communion demeure le centre de ses journées. Sa famille vit dans des conditions économiques évidemment précaires, vous vous imaginez. Et lorsqu'Ursula, en prière et puis consciente, là, prononce les paroles « Seigneur, toi seul me suffis », elle revient souvent à cette parole sublime, « Seigneur, toi seul me suffis », pour, ça devrait être notre parole à tous, tout en aimant ce que nous devons aimer et ce que nous aimons, mais au cœur, pour se préparer vraiment aux épreuves les plus tragiques de la vie, Seigneur, toi seul me suffis. Et ce qu'elle sait, elle le répète comme ça, cette même phrase, il semble bien qu'elle le sache, que ça vient de Sainte Thérèse d'Avila, qui l'a prononcée 4 siècles plus tôt, elle, la grande mystique. « Seigneur, toi seul me suffis. » À partir de ce moment, écrit-elle dans son autobiographie, « J'y agis avec énergie nouvelle, avec une énergie nouvelle, et je priais plus intensément. » Je ne me rassasiais pas de faire quelques mortifications comme ça, et j'assistais à la messe, et je communiais chaque jour, et je me confessais chaque semaine. Et la lecture de « Pratique d'aimer Jésus-Christ », c'était un livre populaire, et de l'histoire d'une âme de Thérèse l'Enfant Jésus qui vient de paraître, ça l'aide beaucoup. Et sa vivacité, son esprit d'initiative la distingue des jeunes filles de son âge, et même des jeunes garçons, hein. Elle cherche d'ailleurs à entraîner à sa suite les jeunes filles, les jeunes garçons dans des activités de vie paroissiale. Ursula Rivata, qui va fonder les Sœurs Disciples du Divin Maître, elle sait saisir la valeur du beau dans les cérémonies religieuses. Et elle aime louer Dieu. C'est pour ça qu'on est créé, de toute façon. Dans le ciel, c'est ce qu'on va faire. Louer Dieu, l'aimer. Et elle veut lui rendre personnellement, et avec tout le monde, là, le culte qui lui est dû. Alors Ursula est donc née à la fin du 19e siècle. C'est une période historique assez tourmentée, hein, sur le plan moral et social, un peu comme aujourd'hui. Et le pape Léon XIII, qui est un homme âgé mais clairvoyant, il invite l'Église entière, par un très beau texte, à prier et à prier devant le Très-Saint-Sacrement pour le siècle nouveau. Changement de siècle, ça incite comme ça à réfléchir davantage, et nous nous avançons maintenant là. Ursula a 3 ans et demi, lorsqu'un événement à saveur mystérieuse se passe dans le silence et dans la prière dans la proche ville d'Alba. Qu'est-ce qui arrive? Mais c'est que je vais vous lire un passage de Jacques Alberio, né dont je vous ai déjà parlé, qui à ce moment-là, séminariste âgé de 16 ans. Il est élève au séminaire d'Alba, une ville voisine de là où elle est née, elle, Ursula Rivata. Et il participe à la prière nocturne, la prière de nuit, la continue. Il écrit ceci, « La nuit marquant le passage d'un siècle à l'autre, comme nous allons faire là, le 31 décembre, fut décisive par rapport à la mission spécifique et à l'esprit particulier dans lequel la famille paulinienne, car il a fondé de nombreuses congrégations qui forment la famille paulinienne, comme les Sœurs de Saint-Paul, les Pères de Saint-Paul, etc. Et il dit, c'est l'esprit particulier dans lequel la famille paulinienne devait naître et vivre. Alors, il continue en disant, lui qui est tout jeune, à 16 ans, à la cathédrale d'Alba, il y eut adoration du Saint-Sacrement. Après la messe de minuit, les séminaristes étudiant en philosophie et en théologie avaient toute liberté d'y rester aussi longtemps qu'ils désiraient. Or, dit-il, une lumière sans pareille jaillit de l'Eucharistie et je compris mieux l'invitation de Jésus, venez tous à moi. Il me sembla comprendre le cœur du pape Léon XIII, les appels de l'Église catholique, la vraie mission du prêtre, la vraie mission du prêtre. Il me sembla, lui qui va devenir un saint prêtre, il me sembla saisir plus clairement ce qu'on disait sur le devoir qui nous incombe d'être des apôtres de notre temps, en utilisant les mêmes instruments qu'utilisaient si efficacement les adversaires. Il dit, je me suis senti profondément obligé de me préparer à agir pour le Seigneur et pour les hommes du siècle nouveau avec lesquels j'aurai à vivre. Quelque chose de profond, de grand, hein, d'ineffable, on peut dire, se passe dans l'esprit de ce jeune homme, ce jeune séminariste exceptionnel, Jacques Alberio, né 16 ans. Il écrit, j'eus aussi la conscience assez claire de mon insuffisance, en même temps que j'entendais une voix disant, « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » Il entendait ça dans l'Eucharistie. Il dit où je pouvais trouver la lumière, le réconfort ainsi que la victoire sur le mal. Et Jacques Alberioni a aussi une expérience fondamentale. Le sens propre de son néant. C'est une expérience extrêmement importante de savoir que nous ne sommes finalement rien, sauf par Dieu lui-même. J'entendais un ex-jésuite à second regard qui se dit athée après 15 ans de vie jésuite. Je le regardais et je me disais, est-il conscient de son néant? Et que seul Dieu donne un sens à notre vie, lui qui nous a créés, parce qu'il nous aime et pour qu'on l'aime. Alors il éprouve donc, Jacques Alberioni, le sens de son propre néant, et c'est le premier sentiment vécu et exprimé par ce jeune séminariste qui écoute et accueille la présence perpétuelle du Christ, le Christ qui est le Fils de Dieu, dans le sacrement de la très sainte Eucharistie. Alors il est ordonné prêtre, et Jacques Alberioni devient le fondateur de la famille paulinienne. Je vous rappelle, je lui ai consacré une émission. Et le 20 août 1914, il y a donc 85 ans, il fonde la Société Saint-Paul à Alba. Il écrit, en 1908, « J'ai commencé à prier et à faire prier pour que naisse une famille religieuse de vie retirée, comme les sœurs disciples du Divin Maître, vouée à l'adoration et à l'apostolat, ensemble, au service du sacerdoce et de la liturgie, appartenant totalement à Jésus Maître, un doux Maître, présent dans le mystère eucharistique. Il continue en écrivant pourquoi? Ben, pour devenir source de grâce où puiseraient d'autres familles religieuses dédiées plus spécialement à la vie active dans le monde, comme les Pères de Saint-Paul, les Sœurs de Saint-Paul, qui ont des librairies à Montréal et des maisons d'édition, les Médiapol. Il se dit que la lumière particulière qui vient de la Sainte Hostie au cours de la nuit de prière devrait continuer à briller dans le temps, à se répandre dans l'espace, écrit-il, spécialement à travers une institution ayant l'adoration eucharistique comme apostolat fondamental. Et c'est ainsi que les sœurs disciples du Divin Maître naissent dans l'esprit de ce fondateur, et Ursula Rivata, dont je veux vous parler aujourd'hui, sera plus tard, là, la première choisie, est encore jeune. Une fois devenue sœur scolastique, elle sera la première mère. Pourquoi sœur scolastique? C'est sans doute en l'honneur de sainte scolastique, sœur de saint Benoît et fondatrice vers l'an 540 des bénédictines et sœur de saint, qui était la sœur de saint Benoît, n'est-ce pas? Alors, désormais, eh bien, on peut dire que monsieur Rivata et les autres membres de sa famille s'aperçoivent qu'Ursula est en train de faire mûrir en elle quelque chose de définitif. Puis entre-temps, bien, la jeune Ursula, elle prend des informations, puis elle acquiert une connaissance plus profonde des engagements des religieuses dans sa ville et autour. Mais elle cherche à savoir quelles sont les œuvres accomplies par les différentes sortes de sœurs. Puis là, elle a maintenant 23 ans. Et là, elle se décide. Elle a fait son choix. Elle communique ouvertement à sa famille, à ses parents, ses amis, qu'elle veut se faire sœur, puis elle raconte « Mon curé invitait souvent le prêtre Jacques Alberioni d'Alba pour la célébration eucharistique et la prédication. Et je l'écoutais avec beaucoup d'attention, et écoutez bien, j'aimais aller à la messe du père Alberioni. Pourquoi? Parce qu'il célébrait avec un recueillement particulier. Cependant, je ne m'étais jamais intéressé à ce qui pouvait le concerner. » Vous allez voir l'évolution. Elle va se mettre à s'intéresser. Elle va cofonder avec elle, les sœurs disciples du Divin Maître, une congrégation que j'admire énormément, répandue à travers le monde. Elles sont 1400 sur les 5 continents. Alors, cette jeune Ursula Rivata, qui est née, comme je vous ai dit, dans le nord de l'Italie, assiste de temps en temps à la messe de ce fameux père Alberioni, fondateur de plusieurs congrégations, et elle s'intéresse à le regarder. Ce sont des rencontres silencieuses, hein, qui ont lieu à l'hôtel. Elle prie avec lui. C'est à partir de ce même hôtel que se transmet une lumière. Est-ce que vous croyez à ça, qu'il y a une lumière qui vient de l'hôtel? C'est le Christ lui-même qui est la lumière du monde. Mais ce même Jésus-Christ éclaire la route de Ursula Rivatin. Cette route qui lui reste à parcourir, là. Et elle a souvent l'occasion, justement, pour parler de route, de se rendre à Alba. Ce sont ses parents qui l'envoient faire des commissions. Ça lui arrive assez souvent. En 1921, un samedi, Ursula se rend à la librairie Saint-Paul à Alba pour y acheter un bon livre. Et à sa surprise, elle rencontre l'abbé Jacques Alberione, ce prêtre qu'elle voit à l'hôtel, à l'église de sa paroisse de Guarene. Et un autre samedi, elle fait la même rencontre à la même librairie Saint-Paul. Et cette fois, le père Alberione commence le dialogue. Et Ursula nous le rapporte en quelques mots. Voici son texte. « Il s'informe de mes intentions pour l'avenir et à la suite de quelques-unes de mes réponses, il me demande « Alors, mademoiselle Rivatin, quand avez-vous l'intention d'entrer à Saint-Paul ?» Comme ça, sans préambule, avec la certitude qui jaillit de l'inspiration divine. Alors, Ursula ne se montre pas surprise et elle répond « Oh, moi, ben, j'entrerai même tout de suite, mais les difficultés de ma famille me retiennent. » Et il lui répond, un peu comme Jésus-Christ dans l'Évangile, hein, « Faites vite, mademoiselle, très vite. » C'est un appel direct. Alors, il fallait justement que cette poussée soit là pour hâter la conclusion, on peut dire, et dans ce climat et avec cette méthode évangélique, le choix est maintenant fait. Et Ursula Rivatin l'accueille, hein, avec une foi simple et généreuse. C'est comme ça qu'il faut accepter sa vocation, je crois, qu'elle soit n'importe quoi. Le mariage, le sacerdoce, la vie religieuse, la vie dans le monde, comme célibataire, consacré. Puis il y a une période de lutte, évidemment. Parce que dans la famille, puis avec les gens qu'elle connaît, on est surpris un peu. Puis enfin, le 29 juillet 1922, à 25 ans, Ursula Rivatin, libre et joyeuse, quitte Guarene. Elle quitte sa famille, elle quitte sa paroisse. Elle dit oui. Un oui. Et ça suffit, ça. Tout est compris dans cette adhésion totale, comme quand Marie dit oui, on va célébrer ça, là. Bien oui, demain. Et c'est une adhésion totale qui va être le secret de sa vie entière. Elle part en compagnie de son père, puis elle fait une heure de trajet pour arriver à Alba, et pour tout bagage, elle a presque rien. Ce qui est indispensable pour les premières nécessités, quoi. Monsieur Rivatin remet donc sa fille entre les mains de l'abbé Jacques Alberione, ce bon prêtre, ce saint prêtre. Ce nouveau père dans la foi qu'elle a, donc. Et l'abbé Alberione se montre particulièrement aimable avec M. Rivatin. Parce que c'est pas facile pour un père de donner comme ça sa fille, hein, de ne pas être grand-père. Et ce bon prêtre le comprend, puis il le réconforte. Alors on accompagne Ursula pour faire une visite au Saint-Sacrement. La chapelle, c'est bien normal, c'est la première chose à faire, hein. Et elle répète avec une conviction plus forte, « Seigneur, toi seul me suffis. » Puis, il y a une voix claire qui jaillit de la profondeur de son être. Et cette voix lui donne une certitude nouvelle. Elle entend, « C'est ici que je te veux. » Je me souviens d'une personne apparentée à moi qui était professeur de mathématiques à Laval, et elle cherchait un monastère. Elle est allée en France avec sa mère en voiture, et c'est en arrivant dans le sud de la France que, sur une route qui menait dans un monastère de Dominicaines, elle a entendu cette voix. « C'est ici que je te veux », une Québécoise. Et elle est devenue Dominicaine, une importante Dominicaine en France. Malheureusement, elle est décédée. À ce moment-là, donc, Ursula Rivatin ne sait pas que Jésus l'a choisi pour marquer les débuts d'un institut nouveau, les sœurs disciples du divin maître. Le nouveau milieu est remarquablement différent de celui auquel elle est habituée. Elle habite une petite maison. Et là, c'est tellement plus grand. C'est un peu l'impression quand on entre en religion. Tout devient lumière aussi, hein? Les journées s'écoulent rapidement entre la prière et le travail. Et c'est tellement merveilleux que cette vie, comme je la regrette. Elles sont toujours belles parce que vécues totalement selon l'Évangile. À Alba, là où il y a la congrégation de Saint-Paul, les vocations se multiplient, puis les œuvres augmentent, et l'action s'exprime particulièrement dans l'évangélisation. Comment? Ben, par ce qu'on appelle la bonne presse. C'était le terme qu'on utilisait dans le temps. Disons, par l'impression de livres qui peuvent être vraiment bons. Et aussi des revues, des journaux. Et c'est le moyen qui l'emporte, mais qui a un pressant besoin d'apôtres nouveaux pour opposer le bien au mal. On voit tellement tous ces journaux affreux, ces revues abominables dans nos kiosques. Faut pas trop regarder, c'est l'enfer sous nos yeux. Pas tous, évidemment, il y a de très bons journaux aussi. Le père Alberione est un apôtre. Il dit « De nouveaux moyens de communication de la pensée se présentent déjà. » C'est à cette époque, dans les années 15-20. Il y a la presse, dit-il. Il y a aussi le cinéma. Mais il faut pas oublier l'école, hein, qui devient l'endroit où les non-croyants et les catholiques se disputent les âmes. Et enfin, il y a la radio, dit le père Alberione, puis la télévision qui s'en viennent, parce qu'on parlait déjà de télévision dans les années 20. Oui, croyez-moi. Et c'est apparu à la fin des années 30, début des années 40. Hein. Avec le charisme de fondation qui est justement le don de l'Esprit-Saint à posséder puis à communiquer, le père Alberione sent que l'heure fixée par Dieu arrive, et il s'agit de Dieu, là, puis du salut des âmes. Et entre-temps, bien, il observe le groupe des filles qui vivent déjà à Saint-Paul, afin de reconnaître celles parmi elles qui paraissent les plus aptes à la fondation prochaine des sœurs disciples du divin maître. Il faut qu'elles aient un esprit plutôt contemplatif. Et elles doivent être des jeunes qui aiment la piété, qui aiment le silence, l'effacement et surtout l'Eucharistie. C'est pour cela que, dès les premiers contacts, la pensée puis le regard du fondateur Jacques Alberione se sont arrêtés sur la jeune Ursula Rivatta. Alba, 21 novembre 1923, on célèbre la fête de la présentation de la Vierge Marie. Comme on l'a fait très bien au Grand Séminaire, elle est la patronne du Grand Séminaire de Montréal. Debout sur une caisse, c'est tout ce qu'ils ont comme podium à ce moment-là, le père Alberione dit d'une voix ferme, « Mettez à part pour moi Ursula et Mechthilde pour une mission que je vais leur confier. » Alors, c'est une scène qui évoque, vous savez, les textes du début de l'Église. Hein? Je vous cite le texte. « Un jour qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, l'Esprit-Saint dit, « Réservez-moi donc Barnabas et Saul » pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Hein? C'est dans les Actes, au chapitre 13, verset 2. Un jour qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, l'Esprit-Saint dit, « Réservez-moi donc Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Mais c'est la même chose. Là, il réserve Ursula Rivatta, qui va devenir Marie Scolastique Rivatta, mère Marie Scolastique. Il réserve aussi Mechthilde, qui est le nom d'une grande sainte moniale du XIIIe siècle, si je me souviens bien. Alors les deux jeunes filles sont appelées, elles aussi, à une œuvre voulue par le Seigneur, et Ursula raconte, « Nous avons pris les choses les plus nécessaires, et ensemble nous nous sommes dirigés vers la maison du divin maître. » Mère Marie Scolastique Rivatta, fondatrice ou cofondatrice des sœurs disciples du divin maître, qui sont très connues comme propagatrices de l'art sacré et qui ont une âme eucharistique. Donc, nous sommes bon laissés cette jeune fille entrer en religion dans la communauté de Saint-Paul, fondée par le père Jacques Alberione. Et avec elle, il veut fonder maintenant les Sœurs Disciples du Divin Maître. Il veut l'en détacher de cette première congrégation. Elles se sont dirigées, Sœur Mechtilde ou Mademoiselle Mechtilde, Mademoiselle Ursule, là, vers la maison du Divin Maître. C'est une maison très simple, dépouillée, qui rappelle la pauvreté, on pourrait dire, de Bethléem, puis la simplicité de Nazareth, disons. Et il faut commencer sur les traces de celui qu'elles appellent justement le Divin Maître, hein, Jésus. Et elles vont commencer donc dans la maison qui porte son nom, et ainsi l'Institut des Sœurs Disciples naît dans le silence, l'effacement, la pauvreté. La prière éclaire et vivifie toujours tout. Alors le 10 février 1924, voilà que ce jour-là, 6 autres jeunes filles rejoignent les 2 premières. Et les 8 qui forment le premier groupe, le 10 février 1824, sont admises à la prise d'habit, écoutez bien, le 25 mars suivant. C'est donc il y a 75 ans demain. Je souhaite à toutes les sœurs disciples du Divin Maître un heureux 75e anniversaire demain. Dans les instituts pauliniens féminins, elles sont les premières à porter un uniforme qui a changé avec le temps et qui était assez beau d'ailleurs, un peu original, mais qui était magnifique. Il s'agit d'une robe bleue, d'un scapulaire blanc, dont la coupe et la forme rappellent, on peut dire, la robe démoniale dans les monastères. C'est en harmonie avec le but spécifique puis le style de vie de cette nouvelle congrégation contemplative et apostolique en même temps. À cette occasion, bien, les 8 jeunes filles changent de nom. Elles reçoivent un nouveau nom et le fondateur, Jacques Alberioni, communique que Ursula Rivata va s'appeler maintenant Sœur Marie Scolastique. Elle est la première responsable du groupe. Et le même jour, le fondateur donne à la congrégation naissante le nom de pieuse disciple du Divin Maître. Et le mot pieuse va tomber parce que c'est trop évident probablement. Et à son auditoire attentif et surpris, écoutez bien ce que le fondateur, qui commente le mystère de l'Annonciation, puis c'est le 25 mars, le jour où l'archange Gabriel est venu annoncer à la Vierge qu'elle sera mère de notre Seigneur, et il présente les nouvelles sœurs en disant, à partir de maintenant, il y aura jour et nuit des sœurs, appelées disciples du Divin Maître, qui adoreront Jésus, Maître présent dans l'Eucharistie, pour obtenir à toute la famille paulinienne toutes les grâces nécessaires à la sanctification personnelle ainsi qu'au bon succès de l'apostolat des éditions. Je vous rappelle que les éditions Médiapol dépendent de ce grand ensemble de communautés, en particulier des Pères de Saint-Paul. L'adoration du Saint-Sacrement est le premier devoir fondamental de ces religieuses. Les sœurs disciples la commencent le 25 mars même. Elles n'attendent pas. Elles se succèdent à toutes les 2 heures. Pour la continuer dans la mesure possible, puis la rendre perpétuelle avec l'augmentation graduelle des postulantes. Est-ce que ça va prendre du temps pour en arriver là? Bien, c'est le 15 août 1924, donc il a suffi de 5 mois. C'est la solennité de l'Assomption, hein, le 15 août, l'Assomption de la Sainte Vierge au ciel. Bien, on dispose d'un nombre suffisant pour commencer et même prolonger l'adoration au cours de la nuit. C'est fantastique. Et à tour de rôle, en prière pendant 24 heures, sauf le temps de la messe et de la méditation en commun, évidemment. Aujourd'hui, après 75 ans, le nombre des sœurs disciples du Divin Maître est de 1400, comme je vous l'ai dit au tout début de l'émission, mais il y a des gens qui arrivent en retard. Je spécifie donc ce détail. Les sœurs disciples sont conscientes que selon les directives du fondateur, leur devoir puis leur apostolat, c'est, parce que ça va ensemble, l'adoration du Saint-Sacrement. C'est à la fois leur devoir et leur apostolat, dans un sens. Parce que l'adoration, dit-il, dit le fondateur, est votre mission, est votre apostolat principal. La prière est un apostolat, hein, c'est ce que nous répètent toujours les carmélites, les clarisses, les trappistes, les cisterciens, les bénédictins, etc. Toutes ces communautés contemplatives à la surface du globe, il y en a des centaines, des centaines, des centaines. Eh bien, L'adoration est votre mission et votre apostolat principal. C'est là que vous trouvez toutes les grâces. Et les sœurs disciples l'accomplissent au nom de l'Église, par son mandat et en communion avec l'Église elle-même. Il leur dit aussi que l'adoration soit faite dans le Christ et dans l'Église. Sur l'autel, il y a Jésus. Par lui, avec lui et en lui, la sœur disciple adore. Elle remercie. Elle s'identifie à lui. Elle devient sa bouche, son cœur, sa vie. Elles sont comme Thérèse de l'Enfant Jésus. Hein? Je serai l'amour, disait Thérèse l'Enfant Jésus. Dans l'Église, votre adoration, dit-il, vous la faites au nom de l'Église. Il vous faut sentir que vous êtes unis au pape, à la hiérarchie, que vous êtes au cœur de l'Église. Comprenez-en bien les besoins, les désirs. Alors, sœur scolastique pénètre ces réalités, puis elle les vit chaque jour. La Sainte Eucharistie, qui a été l'objet principal de ses attentions puis de ses choix, devient de plus en plus le centre de sa vie. Le centre de sa vie. Tout son être, tout son agir s'oriente vers l'autel, c'est-à-dire vers l'autel. Vers ce lieu de la rencontre sublime du temps et de l'éternité entre la Trinité et nous. C'est là que s'accomplit ce mystère sacré de la messe, où le prêtre, par un pouvoir qui lui est donné par Jésus-Christ lui-même, par la succession des apôtres, lui permet de consacrer le pain et le vin et d'en faire le corps et le sang vivant du Christ ressuscité. Alors, elle est recueillie, la sœur disciple du divin maître, elle est souriante. Allez les voir. Je crois qu'elles sont toutes souriantes. Et j'aime tellement ces sœurs, elles sont formidables. Allez les voir. Vous voulez l'adresse? 306 Est rue Sherbrooke, près de Saint-Denis. 306 Est rue Sherbrooke. C'est un endroit à visiter. Oui, elle est recueillie, souriante, la sœur disciple du divin maître. On la voit comme si elle revenait chaque fois stupéfaite à cause d'une découverte intérieure de la présence de Dieu dans sa vie puis dans la vie de sa congrégation. Elles sont toujours merveilleuses. Même aux heures les plus orageuses qui ne lui manquent pas, la visite au Saint-Sacrement constitue la solution puis le remède le plus efficace dans sa vie. C'est la rencontre de la disciple avec le divin maître qui lui fait comprendre le « ne crains pas, je suis avec toi, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps ». Lorsqu'une sœur a vieilli et qu'elle est physiquement affaiblie, bien, elle peut librement disposer de son temps. Alors là, elle en profite pour prier davantage, en se disant que le Saint-Père recommande de prier pour telle ou telle nécessité. Hein? C'est publié dans des petits feuillets qu'on peut se trouver. Elle sait aussi que les prêtres en ont bien besoin. Ils ont besoin de notre secours, de nos prières, nos prêtres. Elle sait aussi que la société doit réveiller les valeurs humaines et chrétiennes. On ne peut pas continuer comme on vit actuellement. Quand à TQS, hier soir, j'entendais ça. Le mouton noir de la télévision. Ça leur fait plaisir de dire ça. Et les sœurs, comme ça, les plus âgées, qui prient continuellement, elles savent qu'il y a de nombreux problèmes dans le monde et qu'il faut aider, surtout par la prière, hein? D'ailleurs, voici un épisode significatif. C'est un père de Saint-Paul qui raconte ce qui lui est arrivé. Il raconte « Mère Marie Scolastique a sauvé ma vocation ». En 1934, j'étais jeune prophète. Découragé, pour différentes raisons, je traversais une forte crise sur ma vocation. J'ai résolu de rentrer chez moi. Mais je me disais que je pouvais me conduire en bon garçon dans le monde, quoi. Sans le dire à personne, je me suis préparé... Et je me suis mis à réaliser mon projet de déserteur. J'avais déjà franchi les postes de surveillance lorsque, justement, dans le dernier coin avant la sortie, Mère Scolastique est apparue, à l'improviste. Elle était souriante. Oui, elle était très belle. Dans son humilité, elle m'a dit, « Mon frère, avant de continuer votre chemin, allez saluer Jésus. » Et ensuite, et n'a pas continué sa phrase. Je me suis rendu à la chapelle. J'ai fait environ une demi-heure de prière. Oh, très confuse, j'étais troublé. Mais tout ça s'est suivi d'une paix intérieure absolument suave. J'ai eu la vive sensation qu'un ami me disait en appuyant la main sur mon bras. « Reste avec moi. » Et je me suis mis à pleurer avec regret. Et j'ai demandé pardon et dès que c'était possible de le faire, j'ai rejoint mon groupe. Personne ne s'est aperçu de ce qui s'était passé. Et je me suis remis à accomplir mon devoir avec générosité, à aimer les 2 heures d'adoration chaque jour, en préférant l'horaire nocturne, le plus silencieux, à prier la nuit. Et c'est le plus fatigant, pourvu que je ne renie plus Jésus. Ah, j'étais et je suis toujours très heureux. Devant moi, à côté de la photo souvenir de mes parents, j'ai placé l'aimable figure de mère scolastique avec la didascalie. Voici le texte. Ceci est la photo de mère scolastique qui a engendré ses disciples du divin maître dans la souffrance et que frère, elle, il met pas son nom là, dans le livre, a toujours considéré comme sa deuxième mère. Voilà le fruit d'une sainte femme qui sauve une vocation précieuse. Le fondateur avait dit « Je n'ai pas eu l'idée de constituer autrement les prêtres pauliniens. J'ai d'abord voulu leur donner des mères. Par conséquent, quelle mission immense vous est réservée, mes sœurs. Remerciez le Seigneur et suivez Marie. » C'est pas n'importe qui, mère Marie scolastique. Vous avez vu, c'est une femme humble, mais justement par son humilité, elle est grande. Elle garde constamment un comportement très simple. Ça l'identifie, ça, puis ça la rend très aimable. Mère Marie scolastique, elle aime particulièrement une phrase du fondateur, l'abbé Jacques, le père Jacques Albérioné, qui lui sert de programme. Cette phrase, c'est « Vous appartenez à Jésus Maître et à lui seul. » Considérez, ajoute-t-il, le plus possible le Christ, ses pensées, son adoration parfaite, la louange qu'il rend au Père, jusqu'à ce que vous puissiez réellement dire « Le Christ vit en moi. » En 1935, une disposition inattendue, le père Albérioné lui demande de laisser tout à coup à une autre sa charge de responsable des sœurs disciples d'Alba, dans le nord de l'Italie, là, et des autres maisons qui ont été fondées. Puis il l'envoie à Rome. Elle se rend à la maison de Rome. Quelques mois plus tard, on lui demande de partir pour l'Égypte avec une autre sœur qui est responsable de la nouvelle communauté puis des initiatives d'apostolat. Alors, sœur scolastique est en compagnie d'une sœur qui est beaucoup plus jeune qu'elle et qu'elle a accueillie même dans la congrégation. Et cette sœur devient sa supérieure. Pas facile la vie religieuse parfois pour les fondatrices. À Alexandrie d'Égypte, mère Marie scolastique continue donc à prier, à obéir, à faire silence et surtout à se donner. Et à l'époque, en tant qu'italienne, ses sœurs ne sont pas très bien accueillies. Elles se trouvent en contact avec une population majoritaire musulmane. Elle est rappelée finalement par le père Albérioné, puis elle entre en Italie en 1938, donc 3 ans plus tard, puis elle reprend sa mission et sa charge à Alba. Or, à Alba survient un événement étrange. C'est raconté par une sœur. En 1942, au terme des exercices spirituels à Alba, je suis allé saluer mère Marie scolastique avant de partir. C'était durant la guerre et je voulais rejoindre ma communauté de Florence. Et mère Marie scolastique m'a regardé et elle m'a dit « Non, 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 ne pars pas. Ni aujourd'hui, ni demain. C'est en pleine guerre en 1942. Reste, repose-toi. Il n'arrivera rien aux sœurs de Florence. » Alors j'ai obéi, puis je suis parti après 48 heures, mais arrivé à Bologne, j'ai appris ce que j'ignorais. À travers mère Marie scolastique, le Seigneur m'a délivré d'un grand danger. Ben oui, à cause d'un bombardement aérien, le train à bord duquel je devais voyager a été touché, et il y a eu de nombreuses victimes. En somme, Mère Marie Scolastique a des communications particulières avec le surnaturel, avec l'au-delà, surtout par rapport aux consœurs défuntes. Bien oui, dans sa chambre, exemple, elle est capable de passer la nuit entière en prière aussi longtemps qu'elle n'a pas de signes qu'elles sont parvenues à la lumière bienheureuse, c'est-à-dire qu'elles ont quitté le purgatoire. Elle manifeste humblement, en quelques mots, sa disponibilité, qui est vraiment héroïque. Elle dit « Je suis bonne à rien, je contribuerai au bien de la congrégation par le silence, la prière et l'effacement. » Elle vieillit. Mais elle doit passer quelque temps en France, puis en 1948, le fondateur lui-même lui propose d'aller en Argentine comme maître des novices et par la suite pour organiser des nouvelles formes d'apostolat liturgique pour lesquelles elle possède d'ailleurs l'expérience. Elle est très habile. Elle vit longtemps en Argentine. C'est en 1963 qu'elle revient en Italie et elle se rend à Alba, puis à Rome. Au cours du chapitre général de 1981, Mère Marie Scolastique manifeste plus évidemment les signes d'un grand épuisement, 81. Elle est très âgée, là. Et au cours de la nuit du 7 mars 1984, bien, elle est frappée de paralysie. À partir de ce moment-là, le grand silence commence pour elle. Elle cesse graduellement de parler, de s'exprimer, mais son regard est transparent. Il est toujours lumineux. Lumineux. Et à l'automne 1984, il se passe quelque chose de particulier. Celles qui ont été ses novices de 1933-34 vont lui rendre visite. Pourquoi? Ben, c'est l'occasion, évidemment, vous avez compris, de leur 50e anniversaire de profession. 50e anniversaire de profession. Ce sont des femmes, donc, qui ont 70 ans environ. Elle les reçoit avec son sourire habituel. Elle les regarde. Mais mieux, elle les fixe une à une avec tout son amour de mère. Elle laisse voir qu'elle les reconnaît. À un moment donné, une du groupe dit, auprès de ce lit qui est un hôtel, puis en cette circonstance, on pourrait se demander comment on pourrait exprimer notre gratitude au divin maître, puis à notre mère Marie Scolastique. Oh, nous devrions chanter un beau magnificat. Et surprise, mère Marie Scolastique, qui ne parlait plus, unit sa voix au chant des sœurs. Mais pas pour la durée totale du cantique. Elle le poursuit par le seul mouvement de ses lèvres, parce qu'évidemment, elle sait le Magnificat par cœur, et c'est évident. Ce sont des moments d'émotion indescriptible, parce que le Magnificat, vous savez, c'est le chant de la Sainte Vierge, quand elle rend visite à sa cousine Élisabeth. C'est un très beau chant. Alors, Mère Marie Scolastique fait donc sien ce cantique d'humilité de Marie. Et c'est la consommation. C'est la perfection du silence auquel elle est réduite. Et mardi, le 24 mars, c'est l'anniversaire aujourd'hui, 1987. Dans la chapelle, tout près de sa chambre, la communauté des sœurs disciples du divin maître célèbre les premières vêpres de l'Annonciation. Le soleil se couche et la vie de Mère Marie Scolastique se termine. Elle a 89 ans. Sa cause de béatification est introduite à Rome. Pouvez-vous demander où sont les sœurs disciples du divin maître? Elles ont une maison au 12 775 de l'avenue Allard, à Montréal-Nord. Sœurs disciples du divin maître, à cet endroit, j'ai de l'administration, là. Mais l'apostolat liturgique, le magasin immense qu'elles administrent, est au 306 Est de la rue Sherbrooke, près de Saint-Denis, c'est tout près du métro Sherbrooke. Il y a des possibilités de stationnement. Je vous donne le numéro de téléphone de ce magnifique magasin, 843 6245. 843-6245. On retrouve les sœurs disciples du Divin Maître dans les cinq continents. En Angleterre, la Cité du Vatican, c'est elles qui ont le grand magasin de la Cité du Vatican. En Espagne, en France, en Irlande, en Italie, en Pologne, au Portugal, aux Pays-Bas, en Ukraine, en Tchéquie et en Allemagne. Elles sont en Asie, en Corée, aux îles Philippines, en Inde, au Japon, à Taïwan même. En Afrique, elles sont au Burkina Faso, c'est l'ancienne Haute-Volta, puis ainsi qu'au Congo, l'ancien Zaïre. En Amérique du Nord, bien, elles sont ici, au Québec, ainsi qu'à Toronto, Canada. Elles sont aux États-Unis, au Mexique. Et elles sont en Amérique du Sud, aussi en Argentine, dans ce grand pays qu'est le Brésil, au Chili, en Colombie, en Équateur, au Venezuela. Puis elles sont même en Océanie, en Australie, puis en Nouvelle-Zélande. Elles ont différentes œuvres. Elles ont sans doute les centres d'apostolat liturgique, mais elles ont des maisons de prière, de retraite, des communautés au service de la Société Saint-Paul. Elles ont des maisons divin maître. Elles ont cette boutique à la Basilique Saint-Pierre. Hein. Elles s'occupent même de la centrale téléphonique du Vatican. Elles travaillent dans des nonciatures, c'est-à-dire des ambassades du Vatican. Elles ont aussi des maisons pour prêtres retirés. Je fais donc appel aux jeunes filles. Au lieu de gaspiller vos vies à vous chercher une nouvelle robe ou à chercher un nouveau job et tout ça, mon Dieu, si vous êtes croyante et si vous aimez le Seigneur, me semble, c'est une belle vocation que celle-là, où se mêlent la contemplation et l'action dans la beauté, dans la joie aussi. Et c'est de voir ces sœurs aller bien les voir au 306 Est rue Sherbrooke, près de Saint-Denis, à Montréal. Vous y verrez là des objets magnifiques. Ah, des crucifix, des statues, des images, des objets magnifiques, des objets pour les églises, les chapelles et les custodes aussi, si vous voulez donner la communion avec un bel objet. Alors, ça s'appelle l'apostolat liturgique.